voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Passé la trentaine, son existence a bifurqué. Trader et mercenaire de la finance, Gilles Vernet a fui son métier et un salaire en or pour devenir prof des écoles à mi-temps. Gilles est également réalisateur et écrivain. Dans ses nouveaux choix, Gilles s'applique à y mettre du sens. Dans cette première partie de l'émission La Voix du Kaizen, Gilles nous présente son itinéraire peu ordinaire, mais tellement inspirant.
On peut commencer par mon parcours éducatif. D'abord, mes parents, je suis enfant unique. J'avais, comme tout enfant unique, une bonne pression à la réussite. J'ai fait des études très classiques à la méritocratie, à la française, un bon élève. Ensuite, je suis passé dans un lycée ultra compétitif qui était Louis le Grand, où là, j'ai subi une compétition assez étouffante, donc qui rapproche pas mal de ses condisciples. J'ai des amis indéboutables de cette époque, mais qui s'est quand même inscrit dans une grande souffrance. J'ai même fait une dépression en seconde sous la pression qu'il pouvait y avoir. Puis ensuite, j'ai fait les grandes écoles, un peu mécaniquement. Bon élève, les grandes écoles, j'ai fait les DEC. Ensuite, dans les DEC, la spécialité finance, parce que c'était pour les bons en maths. Et puis de la spécialité finance, je suis parti dans la banque. D'abord dans la banque de réseau, c'est-à-dire la vraie banque qui finance les entreprises. Et puis ensuite, attiré par les sirènes des marchés financiers, je suis parti dans des salles de marché pour Indosuez, JP Morgan ou UBS, dans des grandes banques. Et où là, pendant 5 ans, je me suis frotté aux marchés financiers dans cette espèce de frénésie, de délire. Et c'était en plus en pleine bulle Internet.
Mais jusque-là, tout va bien finalement, tout a l'air de bien se passer. T'as l'air d'avoir, on pourrait dire que tu incarnes une certaine forme de réussite.
Oui, c'est comme un autoroute tout tracé, on va tout droit là où on nous demande d'aller, parce que souvent on souligne, et c'est un petit peu comme une poursuite des notes en fait. Le salaire, c'est un peu votre note. Après, tu gagnes combien, on a une bonne note. Il y a quand même un parcours qui est tout tracé aujourd'hui, qui interroge sur le fait que des gens qui ont une intelligence qui pourrait être mise au service d'autres choses, sont happés par ce monde-là. Jusque-là, tout va bien, tout est normal. Et puis, il va arriver un événement dans ma vie qui va tout chambouler, qui est l'annonce du fait que ma mère est atteinte d'une maladie incurable et que, elle a, selon les pronostics, 2 ans à vivre au moment où je l'apprends quand je suis dans la finance. Et ça va m'amener, parce que je travaille énormément, vraiment pratiquement 7 jours sur 7, et de très tôt le matin à tard le soir. Et je m'aperçois que je vais absolument pas pouvoir la voir. Et donc, ça va faire cet effet initiatique, ça va, pour moi, m'amener à changer profondément de vie, à quitter la finance, et puis à m'interroger à ce moment-là sur qu'est-ce que je veux faire. Je savais pas que j'allais devenir instituteur.
Et donc là, tu quittes la finance sans savoir encore vers quoi tu vas, mais ça te paraissait être comme une évidence qu'il fallait que tu sortes de ce rythme.
Exactement, et puis vraiment, la raison principale, c'était de pouvoir passer 2-3 jours par semaine avec ma mère, échanger et prendre le temps de l'accompagner dans son chemin. Et donc, je vais m'interroger là-dessus, sur quoi faire, et j'ai 2 amis qui étaient à Louis le Grand avec moi, et qui, avec des études brillantes, sont devenus, dont l'un avait fait HEC, et ont tout quitté, sont devenus instituteurs. Et ils aimaient vraiment leur métier, ils y trouvaient vraiment quelque chose d'essentiel, et ils m'ont amené à me poser la question, pourquoi pas. Donc j'ai passé le concours en candidat libre, je l'ai eu, et puis après j'ai eu cette année à l'IUFM où j'ai commencé à rencontrer des classes, c'est-à-dire à être pendant un mois, ma première classe est une classe de petite section, 30 petites sections dans le 19e, je me rappelle au début j'étais complètement perdu, mais très vite j'ai vu la richesse incroyable de ce métier du point de vue humain.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu as repris l'ascenseur social dans l'autre sens, quoi. Tu étais trader, donc avec dans ce monde économique, dans cette sphère de l'argent, pour finalement se retrouver prof. Comment est-ce que tu as vécu ça?
Ce qui est bizarre, c'est de dire que j'ai pris l'ascenseur social dans l'autre sens, dans le sens où, de mon point de vue, j'ai beaucoup monté dans mon échelle de valeur sociale. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus utile aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais dans la finance, d'un point de vue concret. Dans ma vie de tous les jours, je le ressens beaucoup plus. Ce qui aide nettement à vivre. En revanche, ce qui est vraiment frappant, c'est de voir que, effectivement, socialement, c'est à la limite moins reconnu que d'être trader, parce que la valeur argent sanctionne votre réussite. Et donc là, vous êtes trader, vous gagnez beaucoup d'argent, donc vous réussissez. Et puis vous seriez prof, et là d'un seul coup, ce serait la chute dans la dans l'échelle sociale. Et ça, c'est étonnant qu'on en soit rendu à penser ça, quand on pense que l'instituteur dans les années 50 était celui qui avait la voiture avec le maire, etc. Le statut d'enseignant a largement baissé. Or, c'est dommage parce que c'est quand même un des métiers les plus utiles et les plus fondamentaux de la société, évidemment.
T'as quelque part remplacé la valeur argent par la valeur bonheur ?
Alors, bonheur, j'ai la chance que ça se passe plutôt bien dans mes classes et d'avoir des joies et des réussites. Donc oui, bonheur, mais surtout utilité, c'est-à-dire sens. On se dit en y allant le matin, tiens, qu'est-ce que je vais leur faire ? Ben, ça, c'est bien. Et c'est, on se sent utile. Et c'est quelque chose de très, très différent du monde de l'argent, où on poursuit une utilité propre, quoi. Enfin, son compte en banque, sa réussite et la reconnaissance sociale, mais ça nourrit pas profondément. Les métiers d'instit, ou comme je pense d'autres métiers humains, nourrissent profondément. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on accepte que ce soit si mal payé, parce que comme je dis souvent, un trader à 2000 euros par mois, je crois qu'il n'y en a pas un qui ferait ça.
Gilles, donc tu, ancien trader, suite à un événement, tu apprends que ta mère a une maladie incurable, une sorte d'électrochoc, tu choisis de changer ton parcours, de remettre le sens au cœur de ta vie pour pouvoir ralentir, parce qu'on va parler un petit peu de ton film « Tout s'accélère ». Tu te retrouves dans l'enseignement face à une classe, et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce qu'est venue cette idée de mettre en place ce film ?
Déjà, au fil des classes, j'ai commencé un peu à filmer les élèves, parce que j'aime le montage, j'aime les films en général. Et je me suis aperçu que ça marchait pas mal. Les enfants, quand on les filme, ils donnent un peu aussi souvent le meilleur d'eux-mêmes. Mais le film lui-même, Tout s'accélère, vient de la lecture d'un livre et qui montre que toutes les sphères de l'activité humaine sont prises dans une spirale d'accélération. L'économie, la technologie, nos rythmes de vie, tout est pris dans ce schéma de plus en moins de temps. Et que ça pose fondamentalement question, puisque c'est ce trait commun qui est ce rapport au temps et cette course contre le temps qui touche tous ces secteurs d'activité, ça montre bien qu'on a un rapport au temps qui pose question, et c'est ce que je voulais traiter dans ce livre. Pourquoi on court contre le temps alors qu'on sait qu'on passe un peu à côté de sa vie quand on fait ça ? Pourquoi on continue à avoir une société rivée dans la croissance alors que la croissance, c'est la prédation sur les ressources et la certitude qu'à un moment, on va les épuiser ? Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur le sujet, j'ai voulu faire un documentaire classique. Et comme j'étais instit, j'en ai parlé à mes élèves. Parce qu'on parle des sujets qui nous intéressent quand on est prof, toujours. Et les élèves avaient tellement de choses à dire et un regard tellement neuf par rapport à ce que j'avais pensé. Parce que le temps, ils le regardent différemment de nous adultes. Hein, ils ont la vie devant eux, ils ont un autre rapport. Ils nous regardent aussi courir en tant qu'adultes. Ils regardent leurs parents courir. Et donc, je me suis aperçu qu'ils avaient plein de choses à dire. Et en fait, ils sont devenus la colonne vertébrale du film. C'est leurs interrogations qui, in fine, nourrissent toutes les réflexions des penseurs ou des sages qui sont dans le film, comme Étienne Klein, Nicolas Aubert, Nicolas Hulot ou Hartmut Rosa, qui est présent dans le film.
Est-ce que tu peux revenir sur des réflexions d'enfants, avec toute leur innocence, qui t'ont profondément marqué ?
Une qui m'a vraiment profondément marqué, je me souviens d'ailleurs, je le dis dans le film, je réagis en disant bravo, c'est un élève qui réagit à une qui parle du fait de courir pour être premier, voilà pourquoi les gens courent pour être premier, plus fort que les autres, et il dit mais si on court toujours plus vite, on va être premier, c'est pas sûr, parce que si on court toujours de plus en plus vite, à un moment on va se fatiguer, on va ralentir, on va perdre de l'énergie, et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, on songe au burn-out aujourd'hui, tant de gens qui se poussent dans le rouge au dernier degré jusqu'à craquer, mais on peut penser évidemment à la planète, au fait qu'on l'épuise, qu'à un moment on va arriver à certaines limites. Et voilà, cette phrase frappée au coin du bon sens, moi, m'a ramené au fait, c'est le fait qu'on est aujourd'hui dans nos sociétés, il devient essentiel de faire attention à alterner les rythmes, à se ménager des phases de régénération, dans une société qui vous les nie, qui vous les dénie, où on doit tout le temps courir sans s'arrêter, mais c'est la garantie de l'épuisement. Et voilà, ce genre de phrase, un enfant, la phrase qu'un des enfants avait inventée pour la chanson du film, qui s'appelle « Tout s'accélère dans l'univers depuis que l'homme est sur Terre », et où il dit « Ce n'est pas pour vous déplaire, mais c'est élémentaire, quand on n'aura plus de ressources, ce sera la fin de la course. Voilà, ces capacités de synthèse des enfants à dire en quelques mots des trucs géniaux et qui frappent l'esprit, voilà, c'est ça l'esprit du film.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Est-ce que les enfants sont pas plus éveillés que nous? Parce que nous, on est pris dans nos vies. Tu disais que tout s'accélère, donc on se pose même plus la question du sens dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on met en place. Et les enfants ont ce potentiel-là, ont en tout cas encore cette clairvoyance?
Oui, et ils ont aussi une souffrance de plus en plus palpable, qui est encore plus nette avec les classes qui ont suivi le film. Une souffrance à voir leurs parents courir et avoir jamais de temps pour eux. L'enfance, hein, on parle souvent du temps de l'enfance, de cette lenteur, de besoin de jeu gratuit, de temps d'ennui. Déjà, la technologie, les tablettes, les écrans leur enlèvent un peu ça. Donc c'est pas inutile de les réveiller à la nécessité de ces temps-là, entre autres en faisant de la méditation, en faisant des choses comme ça. Et puis ces enfants voient aussi, comme je le disais, la souffrance de leurs parents qui, dans le cadre du travail, doivent arriver avec le sourire, donc vivent de grandes tensions en les intériorisant. Et c'est souvent dans le cadre de la famille que les choses ressortent. Quand on est crevé, on rentre, j'en peux plus, c'est dans la famille que tout ça sort. Et donc les enfants sont souvent les paratonnerres de tout ça. Vous savez, les deux phrases qu'ils entendent le plus aujourd'hui, c'est « attends, parce qu'on est en train de faire autre chose ». Et puis d'un seul coup, parce qu'on doit partir, « dépêche-toi, allez, dépêche-toi ». Et l'enfant vit ça en permanence. C'est une forme de souffrance qu'il vit. Et dernière chose, c'est cette souffrance qu'il vit à ne plus avoir de communication avec leurs parents. Beaucoup d'enfants m'en parlent. Ça pose vraiment question. On a un flux entrant de communication quand on travaille, de mails hein, qui arrivent jusqu'à 8 heures du soir, de SMS, sans parler des réseaux si par malheur les parents y sont, ce qui fait qu'à la fin, ils peuvent avoir beaucoup plus de temps avec leurs écrans sans commune mesure par rapport au temps consacré à leurs enfants. Et j'ai un enfant récemment qui me disait « Mais maître, vous êtes bien gentil, vous dites de pas passer notre temps devant les écrans, mais moi, mon père, quand il rentre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se met devant son ordinateur et il traite ses mails. » Et voilà, ça pose question. Je pense que pour le temps de l'enfance, dans ce maelstrom et dans cette course, il est un peu chamboulé, un peu bouleversé. Et c'est intéressant de les entendre, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est ta solution?
Il y a deux aspects. Il y a les solutions individuelles et les solutions collectives. Hartmut Rosa dit très bien, on pourra mettre toutes les solutions individuelles qu'on veut en place quand structurellement le système, d'un point de vue collectif, va de plus en plus vite, nous entraîne dans une course frénétique, ce ne sera jamais que des cautères sur des jambes de bois. On fera ce qu'on pourra. Donc, cette question collective, je ne peux pas prétendre seul y avoir des réponses. J'ai quelques solutions. Mais c'est tellement complexe, le monde aujourd'hui, que ce serait un peu présomptueux d'avoir des solutions collectives. D'un point de vue individuel, par contre, je crois qu'il y a une chose dont il faut prendre conscience, et ça c'est essentiel, c'est la notion d'exponentiel. L'exponentiel, c'est une fonction qui est celle de la croissance. La croissance est exponentielle. Et c'est une fonction qui, en fait, augmente lentement au début, puis d'un seul coup augmente de plus en plus vite, et à un certain moment, très 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 vite, vers les limites. L'exemple, c'est une feuille de papier qu'on pourrait plier 50 fois sur elle-même. Si on pouvait la plier 50 fois, on peut pas, mais si on pouvait, l'épaisseur qu'elle ferait, personne peut en avoir l'intuition, ça montre bien le pouvoir d'exponentiel, c'est la distance Terre-Soleil. Donc une feuille de papier pliée 50 fois sur elle-même ferait la distance Terre-Soleil. Ça montre bien que l'exponentiel, c'est une exponentielle, cette feuille de papier, elle va très 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 vite, très haut et vers les limites. Or, les SMS, on a un flux exponentiel de SMS qui arrive vers nous. Les mails, flux exponentiel de mails qui arrive vers nous. Chaque année, plus de mails. Chaque année, plus de SMS, plus d'appels, plus de tout ça parce que tout le monde se connecte, sans parler d'être sur Facebook et d'avoir des notifications dans tous les sens. Donc vous avez, vous êtes submergé et comprendre que mathématiquement, arithmétiquement, on est face à quelque chose qui nous submerge, nous amène à avoir une position de choix, de renoncer à certaines choses. Sans culpabilité, c'est-à-dire de comprendre que vouloir répondre à tout est impossible aujourd'hui. Il faut sortir d'une culpabilité qui voudrait qu'on soit parfait. C'est strictement impossible aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il s'agit de faire des choix, de se ménager des temps de régénération, bon évidemment de déconnexion, des moments où de contact avec la nature. Il y a mille choses qu'on peut faire dans sa vie qui amènent à retrouver un rapport au temps plus serein, au moins par moment. et au premier rang desquels la méditation, c'est-à-dire la respiration tout simplement. Et ça, les enfants, on peut en parler, je fais tous les matins, quand on démarre la classe après l'appel, on démarre tous, hop, une petite méditation de 5 minutes, ils sont tous droits comme des i sur leur chaise, le ventre libre, et ils commencent à respirer, et ça pose un autre rapport au temps pour la matinée, un autre rapport entre eux. C'est extrêmement bénéfique au point qu'ils le demandent si je l'oublie. Alors, outre la méditation que je fais tous les jours, il y a une autre activité assez centrale dans mon enseignement, qui vient aussi de ma passion pour la philosophie, et qui est en fait d'ouvrir la semaine par une citation philosophique. On fait la méditation, et puis après, chacun écrit la citation philosophique dans son cahier de classe, et on va en discuter. À chaque fois, je mets une petite vingtaine de minutes pour en discuter, la discussion dure souvent une heure. C'est des moments absolument passionnants, où les enfants construisent leur jugement. Au début de l'année, souvent, je suis là à me dire « Oh là là, mais ils savent pas du tout analyser une... » Mais c'est normal, ils l'ont jamais fait. Et progressivement, on s'aperçoit qu'en les nourrissant de citations de tous ordres, hein, ça peut être « Œil pour œil et le monde finira aveugle » de Gandhi, qui est remarquable dans ce que ça va générer chez eux. Ça peut être une autre citation fascinante, je vous cite les mieux, celle qui entraîne des débats passionnants, c'est une citation de Montesquieu que j'adore, où il dit « Si on ne voulait être qu'heureux, cela serait bientôt fait. » Mais le problème, c'est qu'on veut être plus heureux que les autres. Et c'est le plus souvent difficile, parce qu'on imagine les autres plus heureux qu'ils ne sont. Cette phrase-là, chez eux, ça va déclencher des discussions fascinante. Il y avait une élève qui avait élevé le doigt en disant « Ah mais c'est vrai, dans la classe, en fait, on envie toujours celui qui a une PS, une DS et toutes les tablettes, qui a tous les jeux. Mais peut-être que ses parents, ils lui payent tout ça parce qu'ils le voient jamais. Et qu'est-ce qui est plus important, voir ses parents ou avoir tous les jeux ?» Et donc pour moi, c'est une des activités centrales et qui a l'énorme vertu en plus de développer, comme aucune autre, le langage oral.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Alors l'éducation, c'est un sujet tellement immense. Ce dont je m'aperçois, c'est que il y a une chose qui m'a été dite par un de mes amis, ceux qui m'ont inspiré pour devenir un instituteur, et qui m'avait dit voilà, bon, t'arrives, t'as 35 piges, t'arrives prof, t'as fait d'autres choses, libère-toi des programmes. Il m'avait dit libère-toi des programmes. C'est-à-dire, tu les connais, tu vois à peu près ce que tu dois faire, mais essaye pas de faire le programme pas à pas, etc. Libère-t'en et enseigne ce que tu aimes. Il m'a dit, enseigne ce que tu aimes. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, très déculpabilisant d'ailleurs. Hein, on va vers ce qu'on aime, sans culpabilité de, oh là là, je vais pas faire ici et ça ici. Parce que de toutes les manières, le programme de CM2, personne ne le finit. Ça n'existe pas. Ou alors, on laisse 30% des enfants sur le carreau au minimum. Et donc, enseigner ce qu'on aime, c'est quand même la garantie de transmettre cet amour, cette envie, et qu'après, ça vive. Parce que bon, les enfants, c'est Montaigne qui disait « Enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. » Et c'est ça, enseigner ce qu'on aime, c'est allumer des feux. Et les enfants, derrière, vont nourrir ce feu, parce que voilà, on a mis l'étincelle. Donc ça, c'est la première chose qui fait que je crois qu'il faut faire confiance aux enseignants. C'est-à-dire, d'abord, avoir des bons enseignants, c'est fondamental pour une société, d'un bon niveau.
Mais là, ce que j'entends, ce que je comprends, toi, tu as pu avoir ce recul suffisant, parce que tu avais déjà une vie avant d'être prof. Donc libère-toi des programmes, tu as pu le faire parce que tu étais force d'expérience à travers tout ce que tu avais acquis dans ton existence. Mais le prof qui va aller à 20 ans se lancer dans l'éducation nationale, il n'a pas ce retour sur expérience.
Oui, mais encore une fois, à 20 ans, il a des passions, à 20 ans, il aime ceci, et on va retrouver systématiquement, parce que j'ai eu des coprofs, je suis à mi-temps, donc j'ai eu des profs qui étaient avec moi, des jeunes titulaires, et je les incitais à aller vers leur passion, parce que c'est vrai que c'est là où, en fait, souvent, là où on est passionné, on a un savoir-faire réel, et ce savoir-faire, on le transmet en enseignant. Et donc, on va transmettre ce qu'on sait le mieux faire, et les enfants vont l'ancrer.
Donc, quelque part, en étant passionné, on devient passionnant.
Exactement. Et chacun a quand même ses sphères de passion. Après, bon, faut se confronter à la grammaire, enfin, il y en a qui c'est peut-être leur passion, mais il y en a, faut se confronter à la grammaire, faut le faire, évidemment, hein. Je dis pas, on met pas le programme de côté, mais il devient plus central, il devient plus le métronome de son enseignement, faut se faire confiance. Et effectivement, ça suppose à 20 ans d'avoir une certaine maturité. C'est pas facile, je reconnais.
Première étape, se libérer des programmes.
Et se faire confiance et enseigner ce qu'on aime. Aller vers ça. Et là, je pense que déjà, on est plus à l'aise. Parce qu'en plus de ça, on est plus passionnant. Et donc, on a des classes qui se tiennent mieux. C'est simple. Hein, c'est bien connu que les profs les plus chahutés sont ceux qui vont être, on va dire, un peu plats, par exemple. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a une autre dimension qui me semble importante. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est la notion d'amour. Autorité et amour, en fait. Ce dont je me suis aperçu, c'est que ces enfants avec qui on peut être dur, mais qu'on va valoriser dès qu'ils reprennent le bon chemin, on va dire, ou qu'ils font un truc bien, ces enfants-là sont ceux qui, à la fin de l'année, vous serrent en pleurant, alors que vous avez été dur avec eux. Et ça m'a vraiment frappé. Et ils veulent pas vous lâcher parce que vous êtes occupé d'eux. Et donc, il y a un mélange, je crois, d'autorité. Mais en fait, tout est derrière, c'est l'amour, d'une certaine manière. Mais on engueule un enfant par amour aussi, parce qu'il déconne complètement. Il faut le ramener. Enfin, amour, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même. C'est-à-dire vouloir le bien de l'enfant, toujours, même quand on engueule.
La voix du Kaizen. Une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.